de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Cédric, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Ministère de la Santé, INA, collabore avec la Corée du Sud pour mener à bien le projet indonésien de fractionnement de plasma. Émirats Arabes Unis examine les œuvres d'embaumement dans la région Aceh, a affirmé DPRA. Le Japon jettera à nouveau les déchets nucléaires de Fukushima le 5 octobre. Exportations indonésiennes de bijoux sont au 17e rang mondial, a affirmé le ministère de l'Industrie. Le ministre des Entreprises d'État a inauguré le site web d'Indonésie incorporée. Des entrepreneurs de cafés indonésiens et japonais signent un protocole d'accord. Le festival culinaire du thon a un impact positif sur les MPME de Gorontalo, a affirmé BI. Voici le journal complet. Le ministère indonésien de la Santé avec l'autorité indonésienne des investissements, INA, l'organisme public qui gère des fonds d'investissement, ont signé un term sheet avec SK Plasma, un fractionneur sud-coréen, pour mener un projet de fractionnement de plasma en Indonésie. La directrice générale des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux du ministère de la Santé, Rizka Andalusia, a déclaré jeudi dans un communiqué qu'actuellement, le besoin de fractionnement du plasma pour la production locale des produits médicinaux dérivés du plasma, PODP, dépend toujours à 100% des importations, notamment du plasma provenant des donneurs de sang étranger. La valeur des importations PODP en 2020 a atteint 1,1 billion de rupiah. Pour soutenir la mise en œuvre du fractionnement du plasma en Indonésie, le gouvernement élabore actuellement une politique visant à garantir la disponibilité de plasma sûr et de qualité comme matière première pour PODP, ainsi qu'à donner la priorité à l'utilisation du PODP produit à partir de plasma d'origine nationale. Le président de la Commission 3 du Conseil représentatif du peuple d'Aceh, DPRA, Ansari Muhammad, a déclaré jeudi que les universités des Émirats Arabes Unis, EAU, étudiaient toujours l'offre d'investir dans la région Aceh. Auparavant, le recteur chargé de l'humanité de l'Université Muhammad bin Zayed des Émirats Arabes Unis, Cheikh Dr. Khalifa Mubarak Al-Dahiri, s'est rendu à Aceh et a rencontré le chef de la Chambre des représentants d'Aceh, Tengku Raja Kemangan, et le président de la Commission 3, Ansari Muhammad, à Banda Aceh, mercredi 20 septembre. L'une des raisons de leur arrivée à Aceh était de voir des opportunités d'investissement, notamment celles basées sur la religion à Aceh. La RPD d'Aceh propose un tourisme halal connexe et d'autres activités religieuses telles que la construction de mosquées. Ansari a déclaré lors de la réunion que sa partie avait proposé aux Émirats Arabes Unis d'investir dans le secteur du tourisme halal, considérant qu'Aceh possède également une mer vaste et belle, ainsi qu'une mosquée. À cette occasion, Ansari a souligné qu'Aceh est une zone très sûre pour les investisseurs, en particulier ceux des Émirats Arabes Unis en tant que pays musulman. L'élimination des usages radioactifs de la centrale nucléaire PLTN de la deuxième étape de Fukushima Daiichi sera réalisée le 5 octobre. C'est le rapport de l'exploitation de l'installation jeudi cité par Kyodo. La société multinationale Tokyo Electric Power Company, TEPCO, avait déjà déversé environ 7800 tonnes d'eau traitée de radioactive dans les eaux du 24 août au 11 septembre. TEPCO et le gouvernement considèrent que le rejet des eaux usées traitées est une étape cruciale vers la fermeture de la centrale nucléaire de Fukushima, gravement endommagée par le tremblement de terre et le tsunami de 2011. Le 26 août, le Japon a déclaré qu'aucun teneur en tritium n'avait été trouvé dans les échantillons de poissons prélevés dans les eaux proches de la centrale nucléaire de Fukushima, où des eaux traitées radioactives ont été déversées. Les exportations indonésiennes de bijoux sont classées au 17e rang mondial, en hausse par rapport à l'année précédente qui était au 18e rang avec une valeur d'exportation de 3,1 milliards de dollars américains. C'est ce qu'a déclaré jeudi la directrice générale des petites, moyennes et diverses industries du ministère de l'Industrie, Reni Yunita, lors de l'ouverture de l'exposition de bijoux Salon international de la bijouterie Surabaya 2023, jeudi à Surabaya. Selon Reni, l'un des facteurs qui ont fait croître l'industrie de la bijouterie indonésie est l'exposition qui a eu lieu 26 fois. Selon Reni, l'Indonésie doit encore améliorer le traitement des pierres qui ont le potentiel de devenir des bijoux, en particulier les pierres naturelles qui ont des propriétés et des couleurs. Le ministère de l'Industrie cible à ce que l'Indonésie soit classée parmi les 10 premières au monde. Le ministre des Entreprises d'État, BUMN, Erick Thohir, a inauguré jeudi à Jakarta le site web d'Indonésie Incorporée en tant que forum d'information pour faire des affaires avec des partenaires étrangers. L'Indonésie Incorporée est un bureau conjoint d'entreprises d'État à l'étranger pour pouvoir collaborer afin d'être de plus en plus compétitive à l'étranger. L'inauguration du site web constitue une étape supplémentaire par rapport à l'ouverture du bureau conjoint d'Indonésie Incorporée qui est inauguré pour la première fois par le ministre d'entreprises d'État à Hong Kong, Fang Zhuang. Erick Thohir a déclaré dans une déclaration écrite que ce site web est une source officielle d'information qui est l'attraction pour les visiteurs à faire des affaires avec l'Indonésie Incorporée. Le site web d'Indonésie Incorporée affiche le regroupement des sociétés d'État en fonction des secteurs d'activité ainsi que le rapport annuel consolidé des entreprises d'État. Pour obtenir plus d'informations, le site web d'Indonésie Incorporée offre un accès facile au site officiel de chaque entreprise d'État concernée. Un certain nombre d'entrepreneurs de café indonésiens ont signé un protocole d'accord avec des entrepreneurs de café japonais lors de la 20e conférence et exposition mondiale sur le café de spécialité à Tokyo qui s'est tenue du 27 au 29 septembre 2023. Le protocole d'accord est lié au développement et à l'achat de grains de café destinés à être commercialisés au Japon. L'ambassadeur adjoint de la République d'Indonésie au Japon, John Cahyanto Bustami, a déclaré jeudi à Tokyo que le Japon est l'un des plus grands importateurs de café au monde avec une demande atteignant 400 000 tonnes par an. Cependant, le café indonésien ne peut couvrir qu'environ 5% de la part de marché au Japon. Grâce à cette exposition, le café indonésien peut devenir de plus en plus connu et remplir davantage de café au Japon. La conférence et l'exposition sur le café ont réuni 250 participants venus de pays producteurs de café, entre autres le Nicaragua, le Panama, le Vietnam, la Tanzanie, le Salvador et autres. Le chef du bureau de représentation de la Banque indonésienne BI de la province de Gorontalo, Dian Nugraha, a déclaré que le festival culinaire du thon avait un impact positif sur les micro, petites et moyennes entreprises MPME et les pêcheurs de Gorontalo. Banque Indonésie apprécie et soutient la mise en œuvre de cette activité. C'est ce qu'a déclaré Dian Nugraha après avoir assisté jeudi à l'ouverture du festival qui s'est tenu à l'attraction touristique de Tamandao, ville de Gorontalo, province de Gorontalo. Cette activité devrait être un moyen de développement et de promotion pour les 100 MPME assistés par la Banque d'Indonésie et les pêcheurs qui ont assisté au festival. Le Festival culinaire du thon 2023 réunit des MPME transformant des aliments pour poissons, de la mode et de l'artisanat dans le cadre de l'accélération du secteur de la pêche spécifiquement pour le thon et la promotion du tourisme organisée conjointement par le Bureau de représentation de la Banque d'Indonésie, la province de Gorontalo, le secteur bancaire et le gouvernement local. C'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonjour à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Deuxième tour de l'élection présidentielle aux Maldives » avec moi Oudry. Sur jeudi tard, les Maldives organiseront un deuxième tour d'élection le 30 septembre 2023 pour élire leur quatrième président depuis que le pays a mis en place un système présidentiel multipartite en 2008. Le président sortant Ibrahim Mohamed Soleh du Parti démocratique maldivien MDP sera en étroite concurrence avec candidat du parti d'opposition de Mohamed Mouizou. Au premier tour des élections le 9 septembre 2023, Mohamed Mouizou, candidat du Parti progressiste des Maldives PPM, a étonnamment remporté 46% des voix, tandis que Soleh en a remporté 39%. Mohamed Mouizou est arrivé en tête, mais n'a pas réussi à obtenir la majorité lors d'une élection présidentielle très disputée. La politique étrangère de ces deux candidats apparaît comme une préoccupation majeure pour de nombreux observateurs internationaux. On estime que ce sera l'une des considérations que prendront les électeurs au moment de voter. Ibrahim Mohamed Soleh est connu pour promouvoir activement des relations étroites avec l'Inde à travers une politique l'Inde d'abord. Pendant ce temps, le Parti progressiste des Maldives, qui soutient Mwitsu et des groupes militants, organise régulièrement des manifestations de rue exigeant une réduction de l'influence de l'Inde dans le pays. Le parti de Mwitsu affirme que la forte influence de l'Inde constitue une menace pour la souveraineté et accuse l'Inde de chercher à établir une présence militaire permanente dans cette nation insulaire. Les alliés de Mwitsu affirment que l'élection de Mwitsu contribuera à libérer les Maldives de l'ingérence étrangère. Mohamed Mwitsu, dans sa campagne, n'a pas ouvertement promu une politique étrangère plus orientée vers Pékin. Mais alors qu'il était encore l'un des ministres du gouvernement d'Abdullah Yamin, Mohamed Mwitsu penchait pour Pékin et les Maldives étaient bénéficiaires de l'aide financière du programme chinois d'infrastructure, de la ceinture et de la route. La politique étrangère de ces deux candidats pourrait être une considération pour l'élection dans la détermination de leur choix, mais elle n'est pas la considération principale. Conscient de cela, depuis sa défaite au premier tour, le 9 septembre, sollicité par Channel News Asia, 28 septembre, a tenté de rassembler des soutiens en faisant campagne sur des questions locales telles que le logement. Pendant ce temps, le Parti progressiste des Maldives, PPM de Mwitsu, a concentré le débat sur la diplomatie en critiquant la position de Saleh à l'égard de l'Inde, un pays ayant une énorme influence politique et économique aux Maldives. Chaque candidat essaie de gagner le cœur des gens en soulevant des questions qu'il juge intéressantes. Les Maldiviens doivent simplement faire des choix fondés sur des considérations rationnelles. En votant, le peuple maldivien doit comprendre que son choix lors du deuxième tour des élections de demain, 30 septembre 2023, déterminera le sort des Maldives à l'avenir. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le commentaire.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 29 septembre. Le 29 septembre 1955, l'Indonésie a organisé les premières élections générales pour le Parlement. Les premières élections générales pour élire les membres du Parlement ont lieu le 29 septembre 1955. À cette époque, 30 partis ont participé aux élections législatives démocratiques pour 250 sièges en Parlement. Le résultat, le Parti national indonésien a remporté le plus de voix et obtenu 57 sièges au Parlement. La deuxième position est Nahdlatul Ulama avec 45 sièges. Il y a aussi le Parti communiste indonésien qui a obtenu 39 sièges, suivi ensuite par le Parti Syarikat Islam Indonésia avec 8 sièges. Le 29 septembre 2012, Jokowi et Basuki Cahaya Purnama nommés gouverneur et sous-gouverneur de Jakarta. La Commission électorale générale régionale de Jakarta a nommé Jokowi Dodo et Basuki Cahaya Purnama comme gouverneur et vice-gouverneur élu de Jakarta le 29 septembre 2012. Au deuxième tour de l'élection régionale, Jokowi et Ahok ont remporté avec 53,82 voix a réussi à vaincre le gouverneur sortant de Jakarta, à savoir Fauzi Bowo, et son partenaire Nahrawi Ramli. L'an 2000 est la Journée mondiale du cœur. La Journée mondiale du cœur est célébrée chaque 29 septembre. La première commémoration de la Journée mondiale du cœur a eu lieu le 24 septembre 2000. Jusqu'en 2011, la Journée mondiale du cœur était célébrée le dernier dimanche de septembre. L'objectif de la Journée mondiale du cœur est de sensibiliser et mieux comprendre leur santé, notamment le risque de maladies cardiovasculaires, notamment hypertension. Cette activité est soutenue par plus de 100 pays à travers le monde. La Fédération mondiale du cœur et l'Organisation mondiale du cœur, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, ont créé la Journée mondiale du cœur en 1989. Chaque année, la journée est célébrée avec un thème différent. Et cette année, le thème est « Utiliser le cœur, connaître le cœur ». Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers amis longtemps, voici donc Mon Indonésie ayant pour le titre L'économie verte est une nouvelle source de croissance durable. L'économie verte est capable de devenir une nouvelle source de croissance économique durable en Indonésie. C'est ce qu'a déclaré le ministre coordinateur des affaires économiques, Erlangga Hartarto, lors de son discours d'ouverture virtuelle à Katadata, l'action de durabilité pour l'économie du futur, SAFE 2023 à Jakarta, mardi 26 septembre, cité par l'agence de presse Antara. Erlangga Hartarto expliquait que l'Indonésie avait augmenté son engagement de contribution déterminée au niveau national, NDC, où son objectif de réduction des émissions de 29% à 31,89% avec ses propres efforts et de 41% à 43,20% avec l'aide internationale en 2030. La réalisation de cette vision nécessite une collaboration forte entre les différentes parties prenantes et nécessite un accès accru aux solutions financières et technologiques. Par conséquent, l'Indonésie renforce la collaboration avec le secteur privé et encourage le financement créatif et innovant en créant le Fonds souverain INA, l'Agence de gestion des fonds environnementaux BPDLH et les objectifs de développement durable de l'Indonésie 1 pour réaliser et ouvrir les projets d'investissement en particulier dans le secteur de l'énergie, l'agriculture, le transport et l'environnement. Le ministre coordinateur Erlangga Hartarto a évalué que la PBN donne également la priorité aux projets visant à surmonter le changement climatique et à encourager les activités respectueuses du climat. L'Indonésie a également publié une politique de tarification du carbone par le biais du commerce du carbone et une taxe sur le carbone par le biais du règlement présidentiel numéro 98 de 2021 concernant la valeur économique du carbone. L'Indonésie a également introduit des incitations du côté de la demande pour accélérer le secteur des énergies nouvelles, renouvelables et respectueuses de l'environnement, notamment la réglementation de la taxe sur les ventes de produits de luxe pour les véhicules électriques, afin d'augmenter la demande de véhicules électriques. L'Indonésie ne se contente pas de faire pression au niveau national, mais aussi au niveau régional. Dans le cadre du leadership indonésien pour l'ASEAN 2023, il était convenu de construire un écosystème de véhicules électriques et de développer la neutralité carbone de l'ASEAN. C'est Juritam, c'était Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Datang bagai drug, get you addiction. Buka mata telinga you
C'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de Magazine Culturel. Et cette fois, je vais vous présenter, dans le programme Magazine Culturel, le village touristique de Nampan Sukomakmur, avec Maudry. Chers auditeurs, entouré d'une rangée de montagnes telles que le mont Merapi, le mont Merbabu, le mont Sindoro et le mont Sumbing, la ville de Magelang, dans le centre de Java, possède de très belles attractions touristiques naturelles. Une chose que vous devez visiter si vous venez à Magelang Est, le village touristique de Nampan Sukomakmur. Le village touristique de Nampan Sukomakmur offre de belles vues sur les terrasses avec le mont Sumbing en arrière-plan. Les terrasses de ce village touristique sont plantées de légumes. La vue est donc très verte. Le village touristique de Nampan Sukomakmur est situé à environ 28 km du centre de la ville de Magelang et prend environ une heure pour voyager. Pour accéder à cette attraction touristique, il vous sera facturé un billet d'entrée de 10 000 de roupies par personne. En arrivant à Nampan Sukomakmur, vous serez accueilli par l'air frais de la montagne, car ce village touristique est situé à 1300 mètres d'altitude. Il est conseillé de venir le matin, car le matin, le paysage environnant est encore lumineux. Vous pouvez également voir de belles vues avec un toit de fond du mont Sumbing. Dans ce village touristique, de nombreux touristes viennent prendre des selfies pour immortaliser la beauté des plantations et du mont Sumbing derrière eux. En plus de prendre des photos sur le talus du jardin, vous pouvez également prendre des photos au poste d'observation. La direction a prévu des postes d'observation en bois et en bambou. Au poste d'observation, vous serez plus haute que la plantation. Vous pourrez donc clairement voir la vue de la plantation avec le mont Sumbing en arrière-plan. Dehors de ce poste d'observation, vous pourrez directement assister à la beauté du lever du conseil derrière les collines verdoyantes. Si vous n'avez pas le temps de voir le lever du soleil, vous pouvez attendre que le brouillard tombe. Si vous êtes dans la zone du poste d'observation, cela ressemblera à un pays de nuages, parce que toute la surface est recouverte de brouillard. Ce phénomène se produit généralement l'après-midi et le soir, ou pendant la saison de pluie, où la pluie fait tomber le brouillard. En plus de prendre des photos dans le village touristique de Nampan Sukomakmur, vous pouvez également faire du jogging, de la marche ou du vélo, car il existe des sentiers assez plats. La piste ici est assez difficile, avec des hauts et des bas. Pour ceux d'entre vous qui aiment camper, ce village touristique propose également un endroit pour camping. L'ambiance du camping dans ce village est très agréable. Le village touristique de Nampan Sukomakmur est équipé d'installations annexes telles que des toilettes, des mosquées, des marchés et des stands de nourriture. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le magazine culturel.
Setiap langkah pasti punya tujuan, terjadi dengan atau tanpa bantuan. Langkah kakimu melesat atau tersandar, jalani karena dia kan jadi sahabat. Ketika niat raga sudah menjadi takdir, curang terdalam pun akan segera berakhir. Bintang di ujung langit pasti akan terai, lalui ombak yang tetap akan berbunyi.
Sedari dulu ku bermimpi membelah langit, pecahkan labirin, ambil kesempatan di dalam sempit untuk nafas baru dalam waktu yang sedikit. Raga baru yang tak lelah menahan sakit, untuk semangat yang masih mencoba untuk bangkit, untuk ratusan peluh yang mengalir di atas kulit. Yakin ku bisa raih mimpi di ujung langit, menari lepas dengan keadaan kaki terjepit.
Kan ku raih masa depan ku yang cerah, walau badan menerjang.
Setinggi langit angkasa lepas ku berkarya, berharap suatu saat berubah menjadi nyata. Keinginan, usaha, doa dan pengorbanan, tentukan pilihan, wujudkan masa depan. Bagai bumi berotasi tak pernah berhenti, bukan terus berlari, gapai semua mimpi.
Ya, masih ada cinta untuk bertahan, masih banyak semangat untuk wujudkan angan. Ya, pasti, kita pasti, pasti bisa, pasti mampu, pasti kita bisa maju. Selama mentari terbit masih dari timur, selama nafasku masih menemani umur. Bukan raih mimpiku tinggi-tinggi, karena ku yakin akan be what I wanna be.
Ku raih masa depan.
Thank you. berat. 'Cause life must go on. Mari kita raih mimpi kita setinggi-tingginya. Genggam erat pegangan, kita berangkat sekarang.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée « Équipe de l'UNPAD développe un purificateur d'huile de cuisson usagée à base d'épis de maïs » avec moi Audrey. Serge Littard, un groupe d'étudiants et de professeurs de l'université Pajajaran UNPAD a développé un purificateur d'huile de cuisson usagée appelé Taburai. Cette recherche a été motivée par la condition selon laquelle l'huile de cuisson ou chagée ne peut être clarifiée ou purifiée que lorsqu'elle est encore brunâtre. L'équipe a développé une huile de cuisson ou chagée de couleur brun trouble à noir. In Hanida, une conférencière à la faculté de technologie agricole de l'UNPAD qui a guidé l'équipe, a expliqué que Taburai était le résultat de recherches développées par l'équipe d'étudiants à partir de plusieurs études antérieures menées par d'autres chercheurs. Le groupe d'étudiants l'a soumis au programme de créativité entrepreneuriale étudiante et a réussi à obtenir un financement du gouvernement. Initialement destiné aux vendeurs de produits alimentaires, le produit s'est ensuite tourné vers les femmes au foyer à partir d'août 2023. Un paquet contenant des comprimés clarifiants et de la terre décolorante et de la poudre BE peut être utilisé pour 1 litre d'huile de cuisson ou usagée. Selon le dosage, le comprimé est placé dans l'huile de cuisson usagée puis chauffé à feu doux pendant 2 minutes sous agitation. Après cela, éteignez le feu et séparez le comprimé clarifiant de l'huile puis versez la poudre BE selon le dosage puis remuez jusqu'à ce qu'elle soit uniformément répartie. Après cela, l'huile est versée dans un récipient et laissée pendant 24 heures, puis séparée de l'huile des sédiments BE. Serge Littard, ces épis de maïs sont capables d'absorber les radicaux libres contenus dans l'huile de cuisson usagée. Le traitement du purificateur d'huile de cuisson usagée repose sur le souci de permettre aux utilisateurs de mener une vie saine. En dehors de cela, selon In-In, il s'agit de réduire les déchets provenant de l'élimination de l'huile de cuisson usagée par la communauté, susceptible de provoquer une pollution de l'environnement. Bon, chargé d'art, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Pertama ku tak menyangka semua akan begini. Ku yakini aku takkan selalu sendiri. Namun kenyataan jomblo meski ku katakan hanya kau yang terindah. Aku tak suatu saat kita jadi
kiranya kau memberikan satu kesempatan untuk membuktikan hatiku hanya untukmu.
Aku sungguh meragu maukah dirimu cintaku. Aku takkan bohong, ini bukanlah modus. Namun aku harap nanti suatu saat kita jadi.
Of Indonesia.
Tiganya kau menduakan cintaku di saat ku benar-benar mencintai. kau tinggalkan diriku dan pergi bersama cintamu tanpa memikirkan cintaku kepadamu. Mengapa kau lari dari hidupku? Mengapa kau tega mengingkari janji yang kau ucap? Jujur ku tak sanggup kehilangan dirimu. Masih pahit ku rasa, ku harus relakan kisah kita berdua hilang di telan sang waktu selamanya. Ingin hatiku mengulang kembali masa-masa indah bersama dirimu. Kau yang selalu
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson d'Aceh, intitulée Doda Idi, chantée par Safira Amalia. Chers auditeurs, Doda Idi est une berceuse en Aceh né. Doda vient du mot Pododa, qui signifie se balancer, tandis que Idi signifie se balancer. Doda Idi, dans la tradition achéhnaise, est souvent chantée par les mères à leurs enfants au berceau ou sur une balançoire. Les paroles de Doda Idi contiennent des conseils concernant la morale, les manières et l'esprit de la lutte du peuple Aceh contre le colonialisme. Un autre message de la chanson Doda Idi est que dans la vie, ne soyez pas arrogant et tenez-vous-en toujours à la religion. La chanson Doda Idi que vous entendrez bientôt, chantée par Safira Amalia, a été mise en ligne sur le compte YouTube officiel de 41 Projets au 25 septembre 2023, près de 2 millions de personnes l'avaient regardé, imaginez-vous. Bon, chers auditeurs, voici Safira Amalia va chanter une chanson d'Aceh intitulée Doda Idi. Bonne écoute.
Suci, hantam tak baca.
Chers auditeurs et auditeurs, avant de terminer notre émission, à cette occasion spéciale de ce soir, afin d'annoncer les gagnants du quiz international de Voice of Indonesia, la Voix de l'Indonésie 2023, de service en langue française, nous annonçons que sur la base de la prise de notes du jury, la personne qui a réussi à remporter le concours d'écriture d'essai sur 5 destinations touristiques super prioritaires en Indonésie sont Monsieur Paul Jamet de la France. Monsieur Paul Jamet de la France. Nous représentons l'équipe de diffusion française et l'équipe de Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, de la Radio République Indonesia. Vous félicitons, Monsieur Paul Jamet, et merci à tous les auditeurs qui ont déjà participé à ce concours. Nous vous attendrons au programme Quiz International de l'année prochaine. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.